le compliment avait porté. Le roi tergiversa quelque temps encore, tandis que je continuais de plaider, assaisonnant mon propos de compliment gros comme les Alpes. Quel prince, depuis Saint-Louis, avait montré tel exemple que celui qu'il pouvait donner? Toute la chrétienté allait admirer un geste de preux et viendrait désormais demander arbitrage à sa sagesse ou secours à sa puissance. « Faites dresser mon pavillon, dit le roi à ses écuyers. Soit, monseigneur cardinal, je me tiendrai ici jusqu'à demain au soleil levant, pour l'amour de vous. Pour l'amour de Dieu, sire, seulement pour l'amour de Dieu. » Et je repars. 6 fois au long de la journée, je devais faire la navette, allant suggérer à l'un les conditions d'un accord, venant les rapporter à l'autre, et chaque fois passant entre les haies des archers gallois vêtus de leurs livrées mi-parties blanches et vertes, je me disais que si quelques-uns, se méprenant, me lançaient une volée de flèches, je serais bien assaisonné. Le roi Jean jouait au dé pour passer le temps sous son pavillon de drap vermeil. Tout alentour, l'armée s'interrogeait, bataille ou pas bataille, et l'on en disputait ferme, jusque devant le roi. Il y avait les sages, il y avait les bravaches, il y avait les timorés, il y avait les coléreux. Chacun s'autorisait à donner un avis. En vérité, le roi Jean restait indécis. Je ne pense pas qu'il se posât un seul moment la question du bien général. Il ne se posait que la question de sa gloire personnelle, qu'il confondait avec le bien de son peuple. Après nombre de revers et de déboires, qu'est-ce donc qui grandirait le plus sa figure, une victoire par les armes ou par la négociation ? Car l'idée d'une défaite, bien sûr, ne le pouvait effleurer, non plus qu'aucun de ses conseillers. Or, les offres que je lui portais, voyage après voyage, n'étaient point négligeables. Au premier, le prince de Galles consentait à rendre tout le butin qu'il avait fait au cours de sa chevauchée, ainsi que tous les prisonniers, sans demander rançon. Au second, il acceptait de remettre toutes les places des châteaux conquis et tenait pour nuls les hommages et ralliements. À la troisième navette, c'était une somme d'or, en réparation de ce qu'il avait détruit, non seulement pendant l'été, mais encore dans les terres de Languedoc, l'année précédente. Autant dire que de ces deux expéditions, le prince Édouard ne conservait aucun profit. Le roi Jean exigeait plus encore. Soit, j'obtins du prince le retrait de toute garnison placée en dehors de l'Aquitaine. C'était un succès de belle taille. Et l'engagement de ne jamais traiter dans l'avenir, ni avec le comte de Foix. À ce propos, Phébus était dans l'armée du roi, mais je ne le vis pas, il se tenait fort à l'écart. Ni avec aucun parent du roi, ce qui visait précisément Navarre. Le prince cédait beaucoup, il cédait plus que je n'aurais cru. Et pourtant je devinais qu'au fond de lui, il ne pensait pas qu'il serait dispensé de combattre. Trêve n'interdit pas de travailler. Aussi, tout le jour, il employa ses hommes à fortifier leur position. Les archers doublaient les haies de pieux et pointés aux deux bouts pour se faire des herses de défense. Ils abattaient des arbres qu'ils tiraient en travers des passages que pourrait emprunter l'adversaire. Le comte de Suffolk, maréchal de l'Ost anglais, inspectait chaque troupe, l'une après l'autre. Les comtes de Warwick et de Salisbury, le sire d'Audley, participaient à nos entrevues et m'escortaient à travers leur camp. Le jour baissait quand j'apportais au roi Jean une ultime proposition que j'avais moi-même avancée. Le prince était prêt à jurer et signer que pendant 7 ans entiers, il ne s'armerait pas ni n'entreprendrait rien contre le royaume de France. Nous étions donc tout au bord de la paix générale. « Oh, on connaît les Anglais, dit l'évêque Chauveau, ils jurent et puis renient leurs paroles. » Je répliquai qu'ils auraient peine à renier un engagement pris par devant le légat papal. Je serai signataire à la convention. « Je vous donnerai réponse au soleil levant, dit le roi. » Et je m'en allai loger à l'abbaye de Maupertuis. Jamais je n'avais tant chevauché dans une même journée, ni tant discuté. Si recrue de fatigue que je fusse, je pris le temps de bien prier de tout mon cœur. Je me fis éveiller à la pointe du jour. Le soleil commençait juste à jaillir quand je me présentai derechef devant le trèfle du roi Jean. « Au soleil levant, avait-il dit. On ne pouvait être plus exact que moi. » J'eus une mauvaise impression. Toute l'armée de France était sous les armes, en ordre de bataille, à pied sauf les 300 désignés pour la charge, et n'attendant que le signal d'attaquer. Monseigneur cardinal me déclare brièvement le roi, « Je n'accepterai de renoncer au combat » que si le prince Édouard et 100 de ses chevaliers à mon choix se viennent mettre en ma prison. Sire, c'est la demande trop grosse et contraire à l'honneur. Elle rend inutile tous nos pourparlers d'hier. J'ai pris suffisante connaissance du prince de Galles pour savoir qu'il ne la considérera même pas. Il n'est pas homme à capituler sans combattre. et à venir se livrer en vos mains avec la fleur de la chevalerie anglaise, dût ce jour être pour lui le dernier. Le feriez-vous, ou aucun de vos chevaliers de l'étoile, si vous étiez dans sa place ?
Certes non.
Alors, sire, il me paraît vain que j'aille porter une requête avancée seulement pour qu'elle soit repoussée. Monseigneur cardinal, je vous sais gré de vos offices, mais le soleil est levé. Veuillez vous retirer du champ. » Derrière le roi, ils se regardaient par leur ventail et échangeaient sourires et clins d'œil. L'évêque Chauveau, Jean d'Artois, Douglas, Eustache de Ribemont et même Audrehem, et bien sûr, l'archiprêtre. Aussi content semblait-il d'avoir fait échec au légat du pape qu'il le serait d'aplatir les Anglais. Un instant, je balançais, tant la colère me montait au nez, à lâcher que j'avais pouvoir d'excommunication. Mais quoi ? Quel effet cela aurait-il eu ? Les Français seraient tout de même partis à l'attaque, et je n'aurais gagné que de mettre en plus grande évidence l'impuissance de l'Église. J'ajoutais seulement « Dieu jugera, sire, lequel de vous deux se sera montré le meilleur chrétien ?» Et je remontais pour la dernière fois vers les Bocteaux. J'enrageais. « Qu'ils crèvent tous, ces fous !» me disais-je en galopant. « Le Seigneur n'aura pas besoin de les trier, ils sont tous bons pour sa fournaise. » Arrivé devant le prince de Galles, je lui dis « Beau fils, faites ce que vous pourrez, il vous faut combattre. » Je n'ai pu trouver nulle grâce d'accord avec le roi de France. « Nous battre est bien notre intention, » me répondit le prince. « Que Dieu m'aide. » Là-dessus, je m'en repartis, fort amer et dépité, vers Poitiers. Or, ce fut le moment que choisit mon neveu de Durazzo pour me dire « Je vous prie de me relever de mon service, mon oncle. Je veux aller combattre. » « Mais avec qui ?» lui criai-je. « Avec les Français, bien sûr. » « Tu ne les trouves donc pas assez nombreux ?» Mon oncle comprenait qu'il va y avoir bataille et il n'est pas digne d'un chevalier de n'y pas prendre part. Et messire de Hérédia vous en prie aussi. J'aurais dû le tenser bien fort, lui dire qu'il était requis par le Saint-Siège pour m'escorter dans ma mission de paix, et que tout au contraire d'actes de noblesse, ce pourrait être regardé comme une forfaiture d'avoir rejoint l'un des deux partis. J'aurais dû lui ordonner simplement de rester, mais j'étais là, j'étais irrité, et d'une certaine façon je le comprenais. J'aurais eu envie de prendre une lance, moi aussi, et de charger, je ne sais trop qui, l'évêque Chauveau. Alors je lui criai « Allez au diable, tous les deux, et grand bien vous fasse !» C'est la dernière parole que j'adressai à mon neveu Robert. Je me la reproche. Je me la reproche bien fort.